Salut Daniel, salut à tous les auditeurs et les auditrices de la BAS et J'y suis, c'est Erwan de Brest. Eh bien, après avoir passé quelques jours du côté de Port-le-Cat sous le soleil et la bonne humeur pour entamer cette rentrée sociale, je vois que sur Internet, ton émission est toujours maintenue de 15 à 16 heures, du lundi au vendredi, mais c'est formidable! Enfin, on va pouvoir re-aimer France Inter l'espace d'une heure. Bon, allez, je te laisse. Fais toute ton équipe, fais-nous encore rêver, fais-nous encore réfléchir, et surtout, un petit mot, carré, présistance, carré, présistance. Allez, ciao Daniel.
Oui, ce matin, là, il est 9h10, là, on entend sur votre radio le ramadan. Alors, on l'a déjà entendu hier, on entend de nouveau. Je ne sais pas quand est-ce que vous allez arrêter de nous rabattre les oreilles, toujours avec le ramadan. On dirait qu'il n'y a que cette religion qui compte. Et alors, les autres, est-ce que vous expliquez comment ils font à manger, hein, dans la religion catholique pour Noël, et dans la religion israélite, est-ce que vous faites aussi des émissions là-dessus, des interviews et tout? Alors écoutez, hein, on est français ici, on est français, d'accord? Je veux bien qu'on tolère les autres religions, mais il ne faut pas non plus en faire tout un plat. Voilà. Merci, à bon entendeur, salut!
Cet été, l'information nous a donné de sacrés coups de blues. Suppression des 35 heures, service minimum pour l'école, demandeurs d'emploi privés de droit, constitution taillée sur mesure pour nos nouveaux maîtres, Marina Petrella toujours en grève de la vie, etc., etc. Heureusement, il y a le Chomsky et compagnie, qui a dû arriver maintenant dans toutes les boîtes aux lettres des AMG, et c'est une bouffée d'air pur. Il faut se le reprojeter indéfiniment, car on se sent à chaque fois un peu plus intelligent, un peu plus réfractaire à l'air du temps, un peu plus prêt à en découdre. En court-circuitant les idées reçues, en mettant le feu à la pensée, Chomsky et compagnie nous obligent à sortir du marasme ambiant. Merci à Olivier et Daniel, merci aux mutins. Grâce à vous, nous avons fait provision d'énergie et d'espoir. Bonne rentrée à tous. Et n'oubliez pas les AMG de Limoges, le repère du mercredi 3 septembre à 18h30 au Woodstock Boogie Bar, 18 avenue Montjovi.
Voilà, c'est Jean-Pierre. Je voulais parler du procès qui est fait contre Ciné le 9 septembre à Lyon pour complicité de provocation à la discrimination, à la haine et à la violence. C'est un procès qui me rappelle d'autres procès d'Edgar Morin, de Daniel Mermet en particulier. Ciné, bien entendu, pas du tout un raciste ni antisémite. Et je pense que les auditeurs de là-bas, si j'y suis, pourraient se mobiliser pour ce 9 septembre pour dire à quel point ils sont pas d'accord sur le procès qui est intenté contre Ciné par la LICRA. Voilà. Allez, au revoir.
Je voudrais faire passer un message pour Monsieur P.H. Val ou Philippe V. Il faut faire virer la néanmoins belle, pimpante, il y a eu beaucoup de charme, tout ça bien sûr est subjectif, la professionnelle du journalisme et grand reporter, Madame Memona Interman. Lors du soir 3 du dimanche 20 juillet, cette personne a osé diffuser un petit reportage d'un Palestinien arrêté par des soldats de Tsahal lors d'une manifestation contre l'implantation d'une colonie supplémentaire sur le sol palestinien. Vous vous démerdez avec les contre-pètres, enfin bon voilà. Ce manifestant, les mains entravées dans le dos, les yeux bandés, reçoit une balle tirée à bout portant dans une jambe. C'est inadmissible de nous faire voir des actes pareils. D'ailleurs, ni TF1, France 2, France Inter ou France Culture n'en ont parlé. Donc ce reportage est un acte antisémite et il faut prévenir au plus vite M. Philippe Val. Merde, j'ai dit son nom.
Et voilà, et ben merci à tous, merci pour tous ces messages qu'on a retrouvés avec grand plaisir dans la boîte vocale de là-bas. Si j'y suis, on voit que vous n'avez pas changé. Le petit coup de racisme rampant à propos du ramadan, les caresses, résistance, etc. Il s'est passé beaucoup de choses durant ces deux mois. On va les évoquer Aujourd'hui, dans cette première émission, la basse J'y suis est repartie pour un tour. On va évoquer un peu ce qui s'est passé cet été, quelques moments, parce qu'il s'est passé beaucoup de choses quand même. Hein. Mais entre autres, Antoine Chaoui est parti en vacances, par exemple. Et oui, et il nous a rapporté quelques photos sonores. On va retrouver un grand comique que nous adorons à la basse J'y suis, qui est le Serge Dassault, qui de Rire et Chanson. Et puis, on ira un petit peu plus sérieusement, on va retourner quelques instants en Afghanistan. Il s'est passé quand même des choses aussi là en Afghanistan. Et en 2006, nous étions à Kandahar avec Give en Ktil, et on va y retourner pour essayer de faire comprendre un peu ce qui se tramait déjà à l'époque et qui n'est évidemment pas sans lien avec ce qui s'est passé depuis et ce qui va désormais se passer, puisque la France a choisi de s'engager, enfin le président français a choisi d'engager la France dans ce bourbier. Voilà, alors tout l'été quand même on vous a pas trop trahi, puisque vous avez on vous a pas trop manqué, je le sais, puisque vous aviez l'Afrique Enchantée, excellente émission tous les jours à 15h. Et ben les copains de l'Afrique Enchantée, vous les trouverez désormais, vous le savez, toutes les semaines le dimanche à 18h. Voilà, là-bas si j'y suis, c'est reparti. Encore quelques messages parmi ceux que vous avez laissés dans la boîte vocale de là-bas si j'y suis au 01 56 40 37 37.
Bonjour, oui, alors j'appelle le département d'Outre-mer, en l'occurrence de la Guadeloupe. Mon nom c'est Claude. Donc, mais c'était pour faire remarquer à tous vos auditeurs, si c'est possible, à tous ceux qui écoutent, voilà, donc là-bas si j'y suis. Certainement, ils en ont entendu parler en Angleterre de la célébration du 90e anniversaire de Nelson Mandela. Et il y a un journaliste dans son information qui disait, bon voilà, les États-Unis a fait un cadeau à Nelson Mandela. Ils ont fait un cadeau à Nelson Mandela, on l'a éliminé de la liste des terroristes. Ben, vous imaginez? Alors Nelson Mandela a fait plus de 27 ans. Hein, 27 ans en prison, qui luttait contre l'apartheid, pour la démocratie, contre l'apartheid, hein, pour le droit de l'homme, hein, il luttait, hein. Toi, journaliste français, qui te dit, français, pays des droits de l'homme, France, pays des droits de l'homme, tu trouves que c'est normal que c'est au 90e anniversaire que Nelson Mandela, soit enlevé de la liste des terroristes. Alors, il était emprisonné, hein, par l'ANC, par Peter Botha de l'apartheid, par les antidémocrates, ceux qui privent de la liberté, hein, il était emprisonné, il a fait plus de 27 ans en prison, hein, il était fixé, même après, même en tant que président élu, hein, en Afrique du Sud, il était catalogué, il était encore sur la liste, il figurait sur la liste des terroristes des États-Unis. Hein. Non mais, c'est extraordinaire, et comme je trouve que c'est indécent.
Bonjour, c'est Christophe du Pas-de-Calais. Je suis au chômage depuis plus d'un an. Pour améliorer l'ordinaire, je travaille au noir dans le bâtiment. Mais ça fait du bruit qui m'empêche d'écouter l'été Soro et le reste de l'année Mermé. Alors je fais une proposition honnête à Radio France. Embauchez-moi comme auditeur. Si vous me mettez plus que le SMIC, je suis prêt à écouter la Bourse, voire même Jean-Marc Sylvestre. Mais là, il faudra manquer. Sinon, je continue ma rebellitude et je reste là-bas.
L'Afrique enchantée toute l'année! L'Afrique enchantée toute l'année! Ouais!
Salut, c'est Daniel Mermet, c'est là-bas si j'y suis, avec toute la bande pour la 19e. Allez.
Flight number 2, arriving from New
York. Oui, bonjour Daniel Mermet. Voilà, je me présente. Je m'appelle Jean-Jacques Roumier. Je suis un adhérent socialiste, bien avant. Ma première inscription, c'était la FGDS, Fédération de la gauche démocrate socialiste, et le siège était rue du Louvre à Paris, où j'ai côtoyé à l'époque, mais en 55-56, hein. Ça veut dire que je suis un vieux de la vieille. Eh bien, je voudrais seulement que tu entendes un petit bruit. Écoute bien. Écoute bien, hein. C'est un bruit de déchirement, hein. Je déchire. Attends. Voilà, je déchire. Deux fois, trois fois, ma carte du PS. Je ne veux plus, après 40 ans, je ne veux plus faire partie de cette équipe de loufoques. C'est tout, j'en ai ras-le-bol. Jacques Lang, c'est un comédien, il aurait peut-être bien fait fortune en jouant les Tartuffes. Mais bon, moi, c'est tout, j'en ai marre, je ne veux plus, je jette l'éponge. Je n'irai plus voter socialiste depuis 50 ans, pratiquement. C'est quand même chiant, hein. Mais ça, j'en ai marre, hein. Je laisse tomber, il m'emmerde, hein. Et puis voilà, et puis c'est tout, et puis, bonne vacances à vous tous. Salut les amis, au revoir.
Oui, bonjour à tous, c'est Emmanuel de Lyon. Je suis en train de regarder la nouvelle grille de la rentrée pour la radio. Alors, je suis ravie parce que à 15h, il y a toujours là-bas si j'y suis. Donc ça, c'est une bonne nouvelle. Et suivi de Carrefour de l'Odéon. Ben, ça, c'est pas mal. Voilà. Et on attend toujours l'Afrique enchantée. Ciao!
Alors c'est la rentrée, mais malgré sourire et entrain, nous avons le cœur un peu lourd. Jusqu'au bout nous avons espéré, mais on ne peut plus le cacher. Jean-Marc nous a quittés. Oui, l'éditorialiste économique Jean-Marc Sylvestre a quitté France Inter sans esclandre, sans tapage. Le hussard noir du capitalisme a rejoint la direction de l'information de TF1. Alors, nous avons une pensée pour ces centaines de milliers d'auditeurs désemparés, sans guide et sans boussole désormais. Voilà 22 ans que chaque matin à 7h20, 22, 23 parfois, le Dalai Lama du CAC 40 nous dit ce que nous devons penser. 22 ans qu'il réveille la France en lui parlant de l'horreur des 35 heures, des grèves qui prennent l'usager en otage, des privilégiés, des régimes sociaux, du oui à la Constitution européenne ou de la nécessité de moderniser le financement de la santé et des retraites dans ce pays archaïque où les entreprises sont écrasées par les charges. Comment combler le manque que laisse cet infatigable télévangéliste du marché, cet humble propagateur de la loi, de la foi ultralibérale? Et quelle simplicité! Jamais dans les couloirs de France Inter, on n'a vu arborer la Légion d'honneur que son ami Nicolas Sarkozy lui avait remis en 2004. Toujours prêt à défendre les intérêts des nantis et des puissants, et à nous enseigner la résignation par la modestie ou par l'évidence. Le libéralisme n'est pas une construction intellectuelle comme le marxisme. Le monde a été créé ainsi, tel était le message de Jean-Marc. Le libéralisme est inscrit dans la nature humaine, parfois violente et injuste, nous répétait-il. Pendant 22 ans, cet homme a murmuré à l'oreille des veaux. Un homme toujours prêt à lécher les maîtres du monde jusqu'entre les doigts de pied, là où ça sent pas toujours très bon. Alors bien sûr, France Inter lui a trouvé un successeur. Mais de partout monte le cœur des auditeurs déboussolés. Pourvu que le prochain soit aussi caricatural, disent-ils. Jean-Marc n'avait pas son pareil pour vous faire monter l'adrénaline dès le matin. C'était bon pour démarrer la journée. Jean-Marc Sylvestre, c'est le type qui est la caricature de tout ce qu'il défend. Il a fait réagir tant d'auditeurs, tant de colère et tant de rigolade entre le café et la brosse à dents, qu'il a plus fait pour dévoiler l'horreur économique que pour la faire avaler. Jean-Marc, tu vas nous manquer. Jean-Marc, reviens. Bref, il faut se rendre à l'évidence, Jean-Marc nous abandonne. Mais, heureusement, nous avons une consolation. Philippe Val est toujours là, toujours sur France Inter. Le philosophe Philippe Val, le patron de Charlie Hebdo, c'est lui qui a eu le courage de virer l'infâme dessinateur ciné. Ah, comme l'équipe de là-bas était malheureuse d'être en vacances au milieu des vaïnés et de ne pas pouvoir soutenir l'ami de BHL. et de Laurent Geoffrin, celui qu'Alexandre Adler prend pour Émile Zola, celui qui a eu le courage de faire lyncher le vieux Bob Ciné, tout comme il a réglé son compte au tout puissant Denis Robert, tout comme il a anéanti le révisionniste Noam Chomsky et tous les autres antisémites qui encombrent cette planète. Car ils sont de plus en plus nombreux, ces serpents, ils sont partout. Je n'ai plus seulement Edgar Morin ou Éric Cazan, plus seulement Pierre Bourdieu ou Hugo Chavez, qui sont antisémites, plus seulement Bruno Guigue, Pascal Boniface, José Bové, Alain Badiou, Jacques Bouvresse, la rédaction entière du Monde diplomatique, Eyal Sevan ou Charles Anderlin, mais combien d'autres, sans parler de celui qui vous parle, combien d'autres? C'est pourquoi Charlie Hebdo a rejoint la chasse contre ces sorcières. Depuis des années, vous le savez, un petit réseau d'inquisiteurs ont trouvé une ficelle très efficace pour discréditer tous ceux qui leur déplaisent, c'est de les accuser ou de les faire accuser d'antisémitisme. Un mot jugé douteux, une critique de la politique israélienne ou de la politique de Washington ou de l'OTAN ou même de l'Occident, et ils font de vous un nouveau Drummond ou un nouvel Eichmann. Ils se disent sionistes, ils disent défendre Israël, mais ils sont d'abord de droite, même d'extrême droite, souvent proches des néocons américains, et leur objectif, c'est de salir leurs adversaires politiques, de gens classés à gauche, en les faisant passer pour antisémites. Ça ne marche jamais devant les tribunaux, ces accusateurs perdent toujours, mais peu importe. Pour eux, c'est la calomnie qui compte. C'est salir qui compte. Et ça marche. Toutes les personnes que je viens de citer ont subi des conséquences dans leur vie professionnelle ou privée. C'est quelque chose d'assez ignoble qui s'est collé à la vie politique, médiatique et intellectuelle en France, surtout depuis 2001 et 2002. Quelque chose qui inhibe, qui pervertit l'information, qui bloque les débats. C'est une immense censure non dite. C'est un terrorisme intellectuel tout à fait comparable au macartisme américain ou à la terreur que faisaient régner les staliniens français dans les années 50 ou 60. Or, tout ça, vous le savez, voilà des années qu'on en parle dans la passage j'y suis, tout le monde le sait et tout le monde se tait. Nous traversons des temps de résignation et de désespérance morne, mais sous la lâcheté, ça fermente quand même, ça couve, ça pue un peu, c'est vrai, mais ça s'accumule comme du gaz dans une bonbonne. Et voilà que début juillet, boum, Val a fait péter la grosse baudruche. Et ce maladroit s'est pris les pieds dans ses grosses ficelles. Il est tombé dans son propre piège et une immense poubelle de merde l'a entièrement couvert, lui et ses collaborateurs. Et c'est une injustice. Alors même qu'il est celui qui aura le plus efficacement mis en évidence l'ignoble imposture du chantage à l'antisémitisme, il l'a fait involontairement, sans aucun doute, mais peu importe, c'est le résultat qui compte, car cette imposture est criminelle. La banalisation de l'antisémitisme est un crime contre la mémoire des victimes. Avoir des antisémites partout, on n'en voit plus nulle part. La banalisation de l'antisémitisme détourne et rend impossible la vraie lutte contre l'antisémitisme et le racisme. Ce détournement doit être combattu partout et par tous au grand jour. Alors il y a beaucoup d'autres choses qui ont surgi, et cette histoire n'est pas terminée. Celle-ci et d'autres qui nous attendent au coin du bois, au coin de la rue, au bout du monde, mais tiens bon la rampe, Salimara, là-bas, repart pour un tour.
Fem o mãe, me seca, bão. c'est cabane, fais mon mangui, c'est cabane. No quiere con golo funu funu, mi compito ca funu funu. Tenía en la moña y por el kai kai yo lo so. Él es falata la que disfle, el imbécil y ahí. A mí anca no play, yeah. Anca fue un main, a veces capa, a veces capa. Ami anka, na solo, ibna ye, anka fangani, akadi kojgu, abise ka bonye, kakoro yaye, ambina muleke.
Oh mince, je suis en panne d'internet, je peux plus écouter mon émission préférée. France Inter le soir, oh là là, mince, alors journée je travaille, je peux plus écouter, oh là là. J'espère qu'il y aura, ça va continuer pendant les vacances, hein. Bon, ben bonne continuation, puis à bientôt. Oui, je dois juste finir, je regarde la télévision, bon, le foot. Après, ils nous font voir des supporters idiots à Toulouse, les rugby ont gagné, je sais pas quoi, j'en ai à foutre. Je zappe, il y a 0 sur la 3, bon, c'est mignon, ça rappelle des souvenirs. Mais ça serait bien qu'il y ait un 0. Le lapsus révélateur. Il y a un Zorro des temps modernes, ça serait bien. Ça sert un petit peu nos Daniel Mermet, notre Zorro à nous. Allez, salut Daniel, bonnes vacances si tu pars en vacances.
Ingrid est de retour. Alléluia. Sainte Ingrid est de retour. Alléluia.
Ingrid, on t'aime. Voilà, c'était Pascal de Brest qui rend hommage à sa façon à Sainte Ingrid, canonisée de son vivant. J'ai écouté avec une grande émotion cet après-midi les 2 heures de direct consacré de France Inter, service public, avec Saint-Nicolas Sarkozy, qui a fait vraiment pour le coup dans la dentelle et dans l'humilité totale et dans la retenue. C'était bouleversant, c'était magnifique. Donc, je pense que ça vaut largement 3 à 4 points de plus, d'autant qu'il en a profité un tout petit peu pour régler ses comptes avec Ségolène. C'était bien vu, bon, ça tentait pas trop à planer le débriefing dans l'avion, hein. Non, pas du tout. Et non, c'était beau, il n'y a pas à dire, c'était d'émotion. Il n'y a que TF1 pour rivaliser à un tel degré d'émotion. Et franchement, hein, voilà. On a vraiment atteint le paroxysme émotionnel cet après-midi, c'était magnifique. Ciao.
Oui, bonjour, ici Marie de Saint-Étienne. Donc en fait, je vous appelle parce que il y a les Roms à Saint-Étienne, 70 Roms qui étaient logés dans une école désaffectée qui ont été expulsés par la nouvelle mairie PS, expulsés assez violemment de son CRS, toutes leurs affaires ont été détruites, cramées, etc. Et donc ils campent à Saint-Étienne en plein milieu du centre-ville en attendant que le maire accepte de les reloger. Pour l'instant, le maire veut pas en entendre parler. Il dit que le problème doit se régler au niveau européen, qu'ils ont qu'à se démerder. Donc avec beaucoup d'associations, on est présents sur le terrain. Il y a 70 personnes qui sont dehors, dans la poussière, qui dorment sur des matelas ou sous des tentes qu'on leur a prêtées. Il y a des petits gosses, il y a des bébés. C'est vraiment une situation terrible avec une mairie PS qui veut pas nous écouter. Merci beaucoup. Au revoir.
Allô. C'est une vieille dame qui est scandalisée au plus haut point par l'inertie des Français. On se fait démolir tous les jours, mais jusqu'où va-t-on aller? Il n'y a que vous qui osez parler, c'est déjà quelque chose, mais il faudrait quand même pousser les gens à bouger. On ne peut pas rester comme ça. Tout est démoli tous les jours. C'est la justice, c'est l'armée, c'est l'école. C'est sans arrêt, c'est plus possible. Il faut bouger. Allez, courage, continuez, mais il faut bouger.
Alors j'en connais quand même quelques-uns qu'on ne peut pas soupçonner de ne pas pousser les Français à bouger. C'est la bande du festival du Zest. Vous connaissez ces oiseaux, vous connaissez Bernard Luba. Or, notre Antoine Chaou à nous, eh ben, il est dans ce coup-là depuis des années et des années. Il participe à cette histoire, lui et sa petite famille. Et chaque année, Antoine crée une radio, fait une radio qui s'appelle Radio Éphémère. Ça dit tout ce que ça veut dire. C'est-à-dire que ça dure le temps du festival. C'était le 31e numéro de ce festival du Zest. Et évidemment, tous ces gens-là sont des turbulents. Et il y a un conflit avec la municipalité socialiste du patelin de Bernard Luba. Et du Zest, bien évidemment, vous aviez compris. Si bien que le festival s'est déporté dans les Landes, vous rendez compte, dans les Landes, à Sorre, à pas moins de 30 kilomètres de là. Et le festival, eh bien, désormais, se passe là. Désormais, peut-être qu'un jour, ils trouveront un accord avec la nouvelle municipalité et qu'ils pourront revenir à Uzest. Alors, il y avait des choses formidables cette année. Le festival était entièrement dédié à Aimé Césaire, en partant d'une phrase sublime de Diderot. Vous voyez, moi, il n'y a pas que Philippe Val qui peut citer des gens. Moi, je cite aussi Diderot. La clarté de quelque manière qu'on l'entende nuit à l'enthousiasme. Poète, soyez ténébreux. La poésie veut quelque chose d'énorme, de barbare et de sauvage. Très beau, hein, quand on songe que Diderot était un philosophe des Lumières. Il réclamait de l'ombre, alors il y en avait tout ça, à ce festival. Et Antoine Chaou était là avec sa radio éphémère. Ça s'appelle Libérer les Bérets, et on va voir que ça a un peu quand même, à un moment, on a beau rigoler, tourné vinaigre.
Un petit bonjour pour Radio Uze. C'est tout.
Festival du Zest à Sorre.
Et forcément, la résistance. Des escarmouches, des actions sporadiques, puis des manifs avec les barricades, les gaz lacrymogènes et les matraques sans pitié, et sur la plage, les pavés. Pays choqué.
Retrouvez Radio Us pour un compte-rendu sonore de la 31e Estaillade de las Arts avec Gérard Coma et Antoine Chaou, envoyés très spéciaux à Sorre.
Laissez-moi avoir un coup, après on parlera.
Libérez les bérets.
Mesdames, sur Radio Us, donc en direct du Zest. Et du Zest aujourd'hui, il se passe des choses incroyables. Effectivement, le festival du Zest s'est déplacé aujourd'hui et retourné à Uzest. C'est la Reconquista, mais malheureusement, les forces de l'ordre sont là. Les forces de l'ordre ont essayé de bloquer l'arrivée des festivaliers qui se sont mis à manifester. Et nous serons toujours du côté des manifestants et nous rendrons compte des événements minute par minute en direct sur ARL. Gérard Coma.
Alors voici ce qui s'est passé ce matin. Après avoir accepté que Uzest revienne à l'estaminet, à la salle des fêtes, Madame le maire a interdit l'accès à la salle des fêtes et au café du sport, ce que les festivaliers ont effectivement refusé. Elle a appelé, après l'intervention des CRS qui sont arrivés, ils ont investi le village, fermé les voies d'accès. La mairie est occupée par une partie de l'équipe technique du festival, donc ce qui fait que André Benedetto ne peut pas jouer.
1 million de femmes et d'hommes qui ont défilé dans les rues pour protester. Et le jour même, partout ça se mettait en grève, le pays fut paralysé. Il y a eu bien des conflits au cœur de la contestation. Ceux qui voulaient vraiment une grande révolution, ceux qui prêchaient la méfiance et ceux qui voulaient rien du tout, sinon de reposer en paix.
Alors nous avons des informations, Bernard Luba serait en garde à vue
et on dit qu'il a été blessé aux oreilles.
Quand l'usine aboie, le pays jase.
Oui, c'est vrai qu'avec les oreilles, j'y vois mieux.
L'aventure n'a pas d'autre loi. La culture exige risque, utopie.
Et quand l'usine aboie, le pays jase.
Seul l'acteur lui-même peut vérifier si son utopie est réaliste ou non. Penser la vie culturelle, la considérer comme action.
Radio Uzest.
Deux voitures sont en rouille. Ah, la vache. Pousse-toi.
Ah, une festivalière est là. Vous avez un témoignage à nous donner, mademoiselle.
Oui, en fait, j'ai complètement dingue.
J'ai reçu, je sais pas quoi, il lance des bombes lacrymogènes. Je sais pas, j'ai mal aux yeux et puis oh, je comprends pas en fait ce qui est arrivé.
Attention François, il y a un pavé.
Je vois loin une manifestation spontanée. Une grande majorité des usestois, des citoyens usestois sont en train de manifester pour que le festival puisse enfin revenir sur Uzest.
Là où la chèvre est liée, il faut bien qu'elle broute.
Retrouvez Radio Uzest pour un compte-rendu sonore de la 31e Estaya de las Arts.
À Uzest, la Reconquista, retour à Uzest.
Pas de panique, s'il vous plaît.
Retour de l'information en direct sur Radio Uzest, correspondant de Radio Uzest, Gérard Coma. La situation se stabilise sur Uzest, une barricade est dressée devant la mairie. Où en sommes-nous, Gérard?
À l'heure actuelle, à l'heure où je vous parle, des CRS font face aux manifestants. Vous êtes toi qui refuse de reculer.
Une situation d'insurrection salutaire, Gérard, je crois.
Oui, et donc, en ce qui concerne la mairie, on vient d'apprendre, et ça, c'est une information que je vous donne sous réserve.
Un comité de salut public.
Le salut public et usestois.
Qui se tient en ce moment, donc, chez Marie-Jo, donc, Café du Sport.
Incendie politique.
Une information à confirmer, donc bien sûr, ce comité de salut public qui sera en train de se réunir en ce moment au Café du Sport. Donc nous appelons les citoyens à venir ici renforcer cet état insurrectionnel salutaire.
Alors le souci c'est pour venir à Uzest, tous les points d'accès sont fermés. Alors la sous-préfète vient d'arriver.
Écoutez, on va élaborer un dialogue avec l'insurrection. Je pense que la situation est sérieuse, mais là on va essayer de rentrer en communication avec le café. Ils ont pris le café, j'espère qu'ils vont pas prendre l'apéro, on va essayer de discuter.
La sous-préfète qui tente l'apaisement donc de façon un peu détournée, mais bon, je ne pense que ça ne suffira pas. Moi, je rajouterais peut-être la présence nécessaire d'Hugo Chavez et du sous-commandant Marcos, peut-être, des médiateurs internationaux pour régler cette situation de crise. Rappel des faits, Gérard. Donc, un festival entravé depuis des années par la mairesse Jeanne-Marie Bopp qui s'acharne à empêcher la tenue de ce festival ici, un festival important, un festival de renommée internationale qui se déroulait paisiblement depuis plus de 30 ans ici à Uzest. Donc, après 3 ans d'exil forcé, donc, le festival d'Uzest a tenté de venir ici passer un dimanche paisible. Donc, Gérard, je crois que nous sommes sur une bonne voie, donc, pour une issue heureuse de ce coup de force populaire, de ce coup de force citoyen. Citoyens qui tentent de remettre un festival à sa place, donc à sa place ici à Uzest, un festival bâti depuis plus de 30 ans par un citoyen uzestois, poète, musicien, chanteur.
Bernard Lubac.
Libéré.
Délivrons la pensée captive.
Il y a l'artiste d'élevage et il y a l'artiste sauvage.
Tu illuminé, ravi des nards, à ton insupportable, ton rabiot dégradable. Tu t'allonges en large, à l'aise sur le divan divin, d'avant arrière, jusqu'où t'es Lacan. Sinon sans thune, à chacun sa lacune. Hop, petit start, tout bon, tout bas. Quand le vilain divin s'étirait, faut-il le croire. Mémoire, mes mémoires à ne pas croire, à l'être né au fil ou pas dans ce trou de mémoire. Et quand la foire foire, le murmure, la source censure. Et hop, tout bas, tout bas, tout bas. Ouais, petit start, du nom, il nous manque. Hey, petit start, du bain, petit start, dis le bonouchard. Wow. Articule, fut la tactique, sous-d'Armagnac, Nick Davos, Regnos. Ne laisse pas Dionysos l'avoir dans l'os. Tape ton lourd, hein, pour tous tambour. La nuit, le jour, suis le grand dame d'amour. Délivrer, égalité, fraterminé, fraternité. Des actes, c'est d'idées sur le pavé. Des putains, c'est qui s'est phagocyté. Le grand ami mondial, mondain, c'est l'ennemi qui nous veut, nous vend du bien, du vent. Ah, oh. Allô, à l'huile, à l'urne, à l'occupé, à l'occupant, à l'OGM, à l'organisme génériquement momifié, génétiquement honteur de peur, au rage, au désespoir, au libéralisme inouï, au MC, au FMI, au NU, au temps, au CDE, c'est pas eux, c'est la CE. signe extérieur de détresse, bassesse, mal à la fesse. Sous pas comme boucle, articulicule, allez, j'accule, les sans capitules, capitale au crépuscule, des crapules, capitule, capitaine, solitude en minuscule, articulcule, ridicule, le spécule, claque des mandibules à point virgule, tes exactitudes, articulcule, à l'intitule, stipule, contexticule, signe à bascule, circule au cœur des hasards, articule, de particules en cellules, en macromolécules, immatricule, copule, réanimalcule, récapitule et crève la bulle. Nous sommes le moyen de transport entre les deux ports, la naissance et la mort. Nous sommes le moyen de transport entre les deux ports, la naissance et la mort. Ça suffit, dit, je dis, c'est non, t'es dit, vendu, vendu à vie, à vue. L'universal, la note et le cul, ça te botte, l'allégrie, à Porto Alegre, à Chichène, s'enchaîne, il faut s'y atteler d'en bas, dans Barcelone, comme par milliers à millions. Et comme disait l'ami Lozé, Jésus, José, Bévu, Beauvais, le libéralisme est à la liberté, ce que le McDo est au magret.
Moi, j'ai été élu pour agir. J'ai été élu pour conduire un mouvement de réforme sans précédent dans notre pays. Et je veux dire à nos partenaires européens, la France est en train de changer. Elle change beaucoup plus vite et beaucoup plus profondément qu'on ne le croit. Désormais, quand il y a une grève en France, personne ne s'en aperçoit.
Voilà, pendant qu'on bronzait, on pouvait entendre des choses comme ça sur les radios et les télés. C'était au Conseil national de l'UMP le 5 juillet. Alors, le 10 juillet, quelques jours plus tard, il y avait une interview menée par le journaliste Jean-Jérôme Berthelus sur iTélé avec un personnage que nous affectons particulièrement là-bas, ce qui suit.
Alors, un petit mot quand même sur le président de la République qui avait dit oui, la France change. D'ailleurs, on le mesure au fait que les grèves, eh bien, sont de plus en plus indolores. Ça vous semble un bon curseur ?
Écoutez, à quoi ça sert, les grèves ? Pourquoi on fait la grève ? Pourquoi les syndicats appellent à la grève ? Aujourd'hui, la grève est un cancer. Il faut encadrer le droit de grève. La grève politique doit être interdite. Et ça arrive à quoi? Alors, on est en anarchie, ça veut dire que c'est la rue qui commande, que dès qu'il y a une nouvelle décision, on fait la grève, voilà.
Serge Dassault.
Mais Serge Dassault, vous trouvez que les syndicats ont trop de poids en France?
Mais les syndicats, qu'est-ce que ça sert, un syndicat? Ça sert, excusez-moi, à faire la grève parce qu'on veut des licenciements qui sont nécessaires pour l'entreprise ou parce que on veut augmenter les salaires, ce qui aussi nuit à l'entreprise. On est encore à lutte d'éclate. Les salariés d'un côté, le patron de l'autre. Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? Vous voulez qu'aujourd'hui, il n'y ait plus de grands groupes et de grands chefs d'entreprise qui réussissent? Alors arrêtons de critiquer ceux qui réussissent, parce que si vous les critiquez, ils vont s'en aller.
Est-ce que vous trouvez que Nicolas Sarkozy fait bouger la France comme vous le souhaitez?
Moi, à mon avis, il ne la fait pas bouger assez vite.
Par exemple, en ce moment, le Premier ministre a indiqué qu'il y aurait 30 000 suppressions de postes de fonctionnaires. C'est assez, pas assez?
Oh, c'est pas assez. Qu'est-ce que les... On a trop de fonctionnaires. Alors, quand on paye du personnel, on n'a plus d'argent pour investir. Alors, soit 30 000, 40 000, 50 000, il n'a pas donné de chiffre. Il n'a qu'à faire ce qu'il faut, sans en parler. Mais c'est normal. Écoutez, on a aujourd'hui un pays qui ne travaille pas assez. Tout à l'heure, vous disiez les Chinois, mais les Chinois, ils travaillent 45 heures, ils dorment sur place dans leurs usines, et puis c'est tout.
Bon. Mais Serge Dassault, là quand même, c'est pas ce que vous souhaitez aux travailleurs français qui dorment sur place dans les usines, si ?
Ils dorment sur place pour travailler. Mais si vous voulez, dans une entreprise, c'est le client qui compte, c'est pas le syndicat, c'est pas le salarié. Et puis c'est tout. Mais c'est normal. Ces 35 heures, c'est le cancer de la France. Ça a cassé l'industrie. Les gens sont habitués maintenant à pas travailler. C'est aussi simple que ça. Il faut travailler.
Merci beaucoup, Serge Dassault.
Elle fait la une de tous nos journaux. Son disque est d'ores et déjà l'événement de l'année en exclusivité. Les images de l'enregistrement. Avec le déjà culte Bling Bling.
Bling Bling, tu m'as monstré. Bling Bling, je te montre, je le guine. Bling Bling, c'est toi mon king. Crac, crac, sur le tarmac. Crac, crac, dans le hamac. Crac, crac, sous le bureau à Jacques. Sous le bureau à Jacques.
Et avec aussi le futur hit Casse-toi, pauvre con.
Je voudrais dissiper un certain malentendu. Son casse-toi, pauvre con, a été mal perçu. Car il s'est emporté dans l'une des allées. C'était juste pour gronder un énorme faisan. Qui avait hélas chié sur ce bal pompe à gland. Ces belles pompes à gland.
Mais également, les caisses sont vides en duo avec Michel Sardouille.
Il a dit, les caisses sont vides. Et moi, je dis, et alors?
Oui, c'est pas le Père Noël, c'est pas non plus Albator. Pour Mère Teresa ou Pépé d'Emmaüs.
Si tu veux travailler plus pour gagner plus,
sors-toi d'abord les doigts de dedans ton anus.
Si tu veux travailler plus pour gagner plus, sors-toi d'abord les doigts de dedans ton anus.
Un disque qui va sortir en juillet, pendant que les critiques sont en vacances. Pas conne. Allez, envoyez les restes du monde.
Tu prends donc tes lunettes américaines.
Ah, faut que j'arrive à les lunettes du soleil. Il faut pas qu'on se fasse remarquer de loin.
Oui, oui, c'est vraiment dangereux. On ne sait pas, n'importe quel moment, peut-être, il va venir un attentat.
Là, on vient d'arriver à Kandahar. C'est très désertique, hein. C'est frappant. C'est très, très beau. Hein. Il fait plus chaud qu'à Kaboul. Et là, c'est quand même une certaine tension. Hein. Une certaine tension sur la route qui mène de l'aéroport jusqu'à la ville. On nous dit qu'il y a eu 7 attentats dans les 6 derniers mois. Et d'autres attentats après, à quoi?
Après, c'est jusque dans la ville. Il y a eu 5 attentats encore de plus.
Qui fait ces attentats?
À mon avis, c'est les talibans ou soit Al-Qaïda.
Quel est le but?
Peut-être prendre le pouvoir, créer la terreur.
C'est la stratégie de la terreur, quoi.
C'est pas la vie à Gish, quoi, ouais?
Non, voilà.
Et alors, c'est pas la vie à Gish.
C'est pas la vie à...
Et là, c'est vrai qu'on n'est pas du tout dans le même pays parce que c'est plus du tout la même langue.
Ah non, là, on parle pachtoun.
C'est pour ça qu'on est aussi habillé en pachtoun.
C'est pour ça qu'on s'est déguisé en pachtoun. C'est-à-dire qu'on porte des pantalons larges et flottants et une chemise qui descend jusqu'aux genoux. Comment t'appelles ça? Comment on dit?
Chalwar kamiz.
Chalwar kamiz. Et puis des bonnets blancs pour essayer de passer un peu inaperçu. Je me sens pas très crédible avec mon petit bonnet.
Là ouais, on descend.
Attends, je vais voir.
Alors, c'était en novembre 2006. On était à Kandahar avec Give et on avait voulu en 2006 revenir en Afghanistan où nous étions venus une première fois en 2001. 2001, quelques semaines après, vous vous souvenez bien sûr, après le 11 septembre. Les forces de la coalition, mais essentiellement des forces américaines, avaient fait des opérations en Afghanistan. On avait fait de longs reportages à cette époque-là, mais on avait retenu une phrase de tous ces reportages, c'était des Afghans du Panjshir qui nous avaient dit « C'est très bien, mais si les Américains restent, on leur fera ce qu'on a fait aux Russes ». Et en 2006, eh bien, c'était en route, même si là nous sommes dans le sud, c'est-à-dire dans la zone Pachtoun, capitale Kandahar, eh bien, c'est bel et bien ça qui se passait. Vous savez ce qui s'est passé cet été, on a suivi tout ça ces jours derniers, ces soldats français qui ont été détruits, et puis notre président et la politique française qui dit, qui tient un langage de fermeté, maintenant c'est une guerre contre le terrorisme, nous serons inflexibles, etc. Vous connaissez ce discours. Or, en 2006, nous étions là, donc à Kandahar, et vous allez voir que le climat n'était pas celui-là, n'était pas de gens qui sont forcément tous des terroristes. Et il y a aussi des habitants, des gens qui subissent cette présence comme une occupation et qui veulent s'en débarrasser. Des années après, la phrase qu'on nous avait dite en 2006 se vérifiait. Si les Américains restent, on leur fera ce qu'on a fait aux Russes. Autour de Kandahar, novembre 2006.
Oui, c'est l'heure de frénésie parce que...
C'est l'heure de frénésie.
Non, mais c'est juste avant la rupture du jeûne. Alors, il y a une excitation, les gens rentrent chez eux. Ça y est, on arrive au point culminant, là. C'est dans combien de temps la rupture du jeûne, Akbar?
Dans 20 minutes.
Encore 20 minutes à tenir. Non, mais il y a des gens qui viennent... visiter Luxor, le Louvre, la Tour de Pise, l'Empire du Building. Et nous, qu'est-ce qu'on fait? On va visiter quoi donc? Puisque nous sommes à Kandahar, eh bien oui, nous allons essayer de trouver la maison du Mollah Omar.
Le copain d'Oussama Ben Laden. Celui qui a échappé aux Américains en s'enfuyant en moto et qui depuis est en fuite depuis maintenant 5 ans.
Et dont la tête est mise à prix 25 millions de dollars. Alors là, dans Kandahar, nous recherchons la maison du Mollah Omar. Oh oh.
Vous pouvez voir à droite de la maison de Mollah Omar, vous voyez les lumières qui...
D'accord. Alors autour de la maison du Mollah Omar, on a fait une base militaire, mais énorme, 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 avec un fossé très profond, maintenant il est en train de redescendre, et c'est un site extraordinaire, parce que là le soleil se couche, il y a ces montagnes très particulières de Kandahar, qui sont magnifiques, qui ont l'air des montagnes découpées en carton et toutes plates, un peu peint dessus, qui se dressent comme ça, comme vraiment des montagnes de théâtre. Et là, c'est très beau à cette heure-là, parce qu'il y a des tons de mauve, de gris, de rose, etc. Mais c'est pas drôle du tout, parce qu'ils ont fait de la maison, enfin, de ce qu'était la maison du Mollah Omar, ils ont fait un lieu de base militaire américaine. C'est la CIA qui occupe maintenant la maison. Et devant, il y a ce décor hallucinant d'un cimetière. Alors, les cimetières ici, surtout les cimetières avec des tombes de martyrs, c'est des de grands bambous, de grandes branches, avec des lambeaux, des rubans de couleur, généralement plus souvent vert, des drapeaux, quoi, comme des drapeaux, des fanions, qui flottent comme ça. Et c'est un paysage assez hallucinant. Mais Akbar vient de nous dire une chose, c'est que tu lui as demandé, est-ce que les gens ici regrettent le Mollah Omar? Et la réponse est oui.
Alors bien sûr, au cours de ces dernières semaines, on déplore la mort des soldats français en Afghanistan, mais on a, il faut bien le dire, et c'est important pour l'opinion afghane, qu'on a beaucoup moins, sinon pas déploré du tout, les victimes civiles des opérations militaires en Afghanistan. C'est très souvent que l'aviation des forces de la coalition bombarde des villages, bombarde des civils, bombarde des femmes et tue des enfants. Et évidemment, ça entraîne les réactions prévisibles, qui sont pas nécessairement des réactions de terroristes. obscur. Là, on était en ce novembre, en ce mois de novembre 2006, près de Kandahar, donc, dans une localité qui s'appelle Panjwai. C'est à quelques kilomètres de Kandahar. Et c'était après une opération, une de ces opérations de la coalition, des forces internationales, flanquées des forces afghanes en principe, mais qui sont bien maigres. Et voilà la réaction et l'ambiance dans ce village après cette opération de ces forces auxquelles maintenant, désormais, la France est liée.
Voilà, c'est là qu'ont eu lieu les combats. Dans toute cette zone-là, c'est quoi ? C'est des maisons très très basses, il fait très très chaud, c'est tout des murs de pisés. Et les maisons sont derrière ces murs, on aperçoit juste des portes de temps en temps dans ces longs murs de pisés. Bon, il faut qu'on fasse tout rapidement parce que il y a beaucoup de tensions. Dans ce coin, on a une escorte, on a un militaire qui est là avec son flingue qui veille. Et là, on est avec les gens du village. Il y a des enfants qui sont en train de regarder, évidemment. N'empêche qu'ils ont fait un petit périmètre de sécurité, hein, nos gardes, là. De chaque côté, ils écartent la circulation.
Même les gens de sécurité, ils sont pas très sûrs de la sécurité parce que vous voyez, il y a deux côtés qu'ils surveillent. C'est-à-dire, ils sont pas très, très sûrs. Oui, nous pouvons pas rentrer chez nous, dans les maisons, dans les jardins, dans notre jardin, encore il y a des chars qui détruisent toutes les murs, toutes les maisons, et on peut pas rentrer encore, parce qu'ils sont en train de détruire toutes les...
Mais ça continue aujourd'hui.
Encore, il y a des bulldozers des forces internationales et aussi des forces militaires afghanes. Avec des bulldozers, ils détruisent à Pashmul, dans le district à côté. Ils détruisent toutes les maisons, même ils ne laissent pas un arbre parce qu'ils disent que les talibans, ils vont revenir. Peut-être ils recommencent la guerre contre nous.
Donc ils sont en train de tout raser.
Oui, ils sont en train de tout raser.
Les porte-paroles de l'ISAF, c'est-à-dire des forces de l'OTAN, ont déclaré qu'après plus de 2 semaines de combat, la zone a été nettoyée et qu'il n'y a vraiment plus de talibans.
Non, ça, c'est pas vrai.
Les talibans sont pas partis.
Non, encore il y a des talibans. Oui, toujours il y a de guerre aujourd'hui, hier, avant-hier, tout le temps il y a de guerre et il y a des explosions dans le district tout le temps.
On va aller voir là-bas.
Oui.
On va aller voir l'état des lieux.
Ici aussi il y a des roquettes qui tombaient, vous pouvez voir ici autour, il y a des roquettes qui tombaient.
Ah.
Ici vous pouvez voir. C'était un roquette qui tombait ici. Et vous voyez, ça, c'est les traces de roquettes.
Voilà, ici. Ah, d'accord. C'est des petits bouts de métal. Des petits écrans de métal qui sont rentrés dans le...
Des roquettes des forces de la coalition qui se mêlent aux traces des munitions russes dans ce village. Voilà, merci à tous et à toutes. Toutes les informations sont disponibles sur le site de France Inter à la rubrique émission là-bas. Si j'y suis, à la technique aujourd'hui, Philippe Duclos et Sandrine Laurence et Koyen Guyen et Raphaël Moutéat qui ont réalisé cette émission modeste et géniale, assistée de Charlotte Perry. Et c'est désormais Agnès Lebotte qui se charge du répondeur dont le numéro est le 01 56 40 37 37. On se retrouve demain à 15h pour là-bas. Si j'y suis, je vous laisse pour les infos avec Angélique Bouin, salut.